Manuel, oui.
Manuel, bonjour Manuel. Et vous êtes avec une association qui s'appelle FIAN.
FIAN, oui. Food First Information and Action Network.
Ah oui, et c'est une association belge ou...
C'est une organisation internationale de droits humains qui défend spécifiquement le droit à l'alimentation. Et donc, nous sommes un réseau international avec un secrétariat international basé en Allemagne et des sections dans une vingtaine de pays. Et donc, moi, je représente la section belge du réseau international.
Ah, et une vingtaine de pays, ce sont tous des pays européens ?
Non, c'est partout à travers le monde, tant dans les pays... du nord que du sud, donc il y a des sections qui représentent l'organisation internationale et qui essayent de défendre à tous les niveaux international, régional et national le droit à l'alimentation.
Et vous défendez ces droits, ça veut donc dire que vous n'avez pas des projets concrets ou vous...
Voilà, nous ne sommes pas une organisation de développement, on ne va pas construire des choses dans les pays du Sud. On est vraiment une organisation de droits de l'homme, c'est-à-dire que nous défendons les droits des communautés dont le droit à l'alimentation est violé et nous plaidons pour des politiques au niveau mondial qui soient favorables au droit à l'alimentation et nous dénonçons tous les cas de violation.
Oui, et des cas de violation, donnez-moi donc un exemple, parce que le droit à l'alimentation, ça veut dire quoi concrètement ?
Mais donc le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental de se nourrir qui est consacré par des textes internationaux très concrets, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc c'est vraiment une obligation juridique des États. Alors concrètement, les cas de violation qui se produisent concernent beaucoup les cas de manque d'accès à la terre pour les populations du Sud, puisqu'on constate en fait que parmi les personnes qui souffrent de la faim, 1 milliard à l'heure actuelle, la grande majorité sont en fait des petits paysans du Sud qui n'ont pas un accès sécurisé et adéquat à la terre. C'est souvent en fait des populations locales qui sont expulsées de leurs terres ancestrales au profit de grandes entreprises ou d'intérêts privés qui acquièrent ces terres. Et donc ces populations dont le seul revenu était de travailler la terre sont en fait mises complètement sur le carreau et ne peuvent plus subvenir à leurs moyens élémentaires.
Donc, dans la plupart du cas, ce sont des gens qui avaient d'abord les moyens de se nourrir eux-mêmes, qui étaient un peu autosuffisants, disons, et dont on leur empêche maintenant de faire ce qu'ils faisaient depuis longtemps.
Voilà, donc ce que nous plaidons, c'est un système économique international qui permettrait de revenir à une agriculture vivrière de subsistance pour les populations. Donc c'est le principe de la souveraineté alimentaire qui est mis à mal depuis de nombreuses années par un système économique qui favorise en fait l'agro-industrie, les entreprises multinationales agro-industrielles qui sont... qui concentre en fait les revenus de l'agriculture au profit des populations les plus riches, mais aux dépens des populations locales du Sud et des petits paysans principalement.
Bon, et vous existez depuis longtemps et vous défendez depuis longtemps ce point de vue.
Voilà, donc ça fait 25 ans que FIAN a été créé et on se bat depuis ces 25 ans. Malheureusement, la situation au niveau mondial ne s'améliore pas vraiment. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim continue d'augmenter depuis les années 70. Et donc c'est une situation qui est absolument intolérable et que nous dénonçons de manière très très claire avec de nombreuses autres organisations, tant ici en Belgique que sur la scène internationale.
Oui, et il y a aussi, je crois, une tendance qui va vous appuyer parce qu'il y avait le rapport l'année passée de Monsieur Olivier de Schutter qui dit en fait ce que vous dites aussi, n'est-ce pas ?
Voilà, tout à fait. Donc le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, qui est un professeur belge, a très clairement sorti de nombreux rapports, en fait, hein, il en produit 2 ou 3 chaque année, qui vont clairement dans le sens de ce que nous promouvons et nous appuyons complètement ces revendications. Donc ce n'est pas uniquement une vision de FIAN, c'est vraiment un rapporteur spécial des Nations Unies qui l'exprime très clairement, c'est-à-dire qu'il faut renforcer l'accès à la terre pour ces populations-là. Il faut leur permettre d'avoir un système économique qui leur permette de vivre des revenus de leur agriculture et de mettre en place un système de production agricole plus local avec des modes de production agroécologiques qui permettront non seulement de nourrir mieux la population, mais également de répondre aux défis environnementaux qui sont les grands défis de demain pour la planète.
Donc, et vous avez déjà obtenu des succès. Qu'est-ce que vous faites concrètement donc ?
Bien, donc en tant qu'organisation, nous agissons à différents niveaux. Tout d'abord, nous plaidons pour que des politiques internationales favorables à l'accès à la terre et au droit à l'alimentation soient mises en place. Ça, c'est plutôt un travail de plaidoyer qui s'effectue donc sur les politiques tant au niveau international, régional de l'Union européenne qu'au niveau national. Et là, nous avons quelques succès dont je pourrais reparler, mais donc nous agissons également de manière plus concrète à la défense de communautés du Sud qui sont victimes de violations du droit à l'alimentation. C'est-à-dire que quand des populations sont évincées de leurs terres, eh bien elles peuvent souhaiter se battre pour réclamer leurs droits. Et là, nous les appuyons dans un combat qui est politique et juridique. Parfois, ça peut aller jusque devant les tribunaux pour faire respecter ce droit à la terre des populations locales. Alors, donc je parlais de quelques avancées importantes au niveau international. Mais donc, comme je le disais, le droit à l'alimentation, ce n'est pas juste un devoir moral des États, c'est vraiment une obligation juridique qui est consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, nous avons beaucoup plaidé pour favoriser une interprétation progressiste de ce droit à l'alimentation. Et il y a des textes qui sont sortis au niveau international, notamment des guidelines pour mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Et très récemment, ici, au sein de la FAO, il y a des directives volontaires qui ont aussi été négociées sur la gouvernance foncière. Donc comment est-ce que les États peuvent et doivent assurer un accès sécurisé à la terre pour les petits paysans. Donc ce sont quelques avancées concrètes qui donnent des directives claires sur la manière dont les États doivent réaliser le droit à l'alimentation.
Et voilà. Oui, mais vous dites ils doivent réaliser ça, mais ce sont quand même des directives volontaires.
C'est-à-dire l'obligation du droit à l'alimentation, c'est une obligation concrète qui a certaines règles très claires. Les États doivent respecter le droit à l'alimentation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évincer des personnes qui ont un accès à la terre. Donc quand ils évincent des personnes de manière illégitime et sans compensation, il y a très clairement une violation là du droit international. Mais il y a également des directives volontaires qui peuvent être émises pour, par exemple, favoriser des programmes de réforme agraire qui doivent assurer là une meilleure distribution, donc de réduire les inégalités qui existent au départ sur l'accès à la terre. Dans ce cas-là, ce ne sont pas encore des obligations contraignantes, mais c'est ce qui est promu au niveau international par donc le rapporteur spécial dont je parlais et par ces directives volontaires qui ont été discutées et négociées. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, on constate que dans la pratique, c'est exactement l'inverse qui se déroule. On parle beaucoup à l'heure actuelle du phénomène de land grabbing, accaparement des terres, où des entreprises ou des intérêts privés accaparent des quantités énormes de terres dans les pays du Sud, aux dépens toujours des populations locales qui sont privées de leur seule ressource pour se nourrir.
Oui, et voilà donc le sujet de votre exposition photo.
Voilà, tout à fait. Donc on va organiser une exposition avec le thème de l'accès à la terre et aux ressources naturelles au Parlement fédéral qui démarrera ce mardi 17 avril à l'occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes. Et donc nous allons montrer des photos. Bien, nous faisons ça en collaboration avec le mouvement Ekta Parishad, qui est un mouvement indien de paysans qui justement revendique un meilleur accès à la terre pour les paysans indiens. Et donc il y aura des photos de ce mouvement Ekta Parishad en Inde, et nous allons montrer aussi des cas que nous défendons au Brésil avec une communauté qui s'appelle la communauté Guarani, qui revendique son droit à la terre. C'est un peuple indigène, donc qui a un droit sur ces terres ancestrales et qui leur a été privée. Et également un autre cas d'exemple en Ouganda, où une communauté a été là aussi évincée de ses terres pour l'implantation d'une entreprise multinationale de plantation de café.
Oui. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez eu des cas juridiques ou des succès ?
Mais je vais prendre le cas en Ouganda, qui est assez emblématique de la situation actuelle. Donc c'est une communauté qui vit dans le district Mubende, et qui en 2001 a été évincée de ses terres par l'armée ougandaise, qui est venue de manière brutale donc expulser les populations de leurs terres et de leurs habitations pour offrir cette terre à une entreprise de plantation de café.
Alors et est-ce que c'est une entreprise étrangère donc ?
C'est une entreprise qui est basée en Allemagne et qui a donc une filiale en Ouganda. Et donc il y a eu une négociation entre l'entreprise allemande et le gouvernement ougandais qui lui a offert les terres pour des revenus qui arrivent directement aux élites ougandaises locales et qui ne profitent pas du tout aux petites communautés. Donc les populations sont expulsées de manière violente et l'entreprise vient s'implanter, prend même symbole son quartier général dans l'école où les enfants étaient instruits. Donc c'est absolument scandaleux et intolérable.
Mais les gens en Allemagne, est-ce qu'eux, ils savent ce qu'il se passe là-bas, donc ?
Ben, la section de FIAN Allemagne a fait un grand travail de plaidoyer autour de ce cas. Donc on essaye de rendre ça visible, mais c'est extrêmement difficile. Les entreprises sont très... très difficile, elles ne donnent pas accès à leurs données et évidemment elles défendent leurs intérêts. Donc pour revenir à la défense de ce cas, effectivement ça fait plus de 10 ans que nous défendons la communauté. Il y a des procès qui sont en cours en Ouganda qui ont été systématiquement retardés parce que l'entreprise et le gouvernement ne se présentent pas aux audiences, parce qu'ils essayent par toutes sortes de manœuvres en essayant d'introduire des dossiers pour récuser les juges pour telle ou telle raison. Et donc c'est systématiquement retardé, même si ces derniers temps nous avons réussi à attirer un peu plus l'attention de la communauté internationale sur la défense de ce cas, c'est toujours loin d'être réglé devant les tribunaux en Ouganda. Et même au niveau de l'Allemagne, nous avons introduit une plainte devant le point de contact de l'OCDE. C'est un mécanisme qui permet d'introduire des plaintes lorsque des entreprises ne respectent pas les lignes directrices de l'OCDE pour les multinationales. Et là, malheureusement aussi, la procédure a pris énormément de temps et n'a abouti à rien d'autre que de dire l'affaire doit être réglée devant les tribunaux ougandais. Donc, ce cas montre vraiment la difficulté, alors que le cas de violation est flagrant, la difficulté de pouvoir obtenir gain de cause dans des procédures juridiques, et on voit bien là les intérêts qui sont en jeu, la puissance des intérêts économiques face aux populations locales qui sont un peu dépourvues et n'ont pas les moyens d'assurer leur défense.
Oui, c'est le grand argent contre les petits. Hein ?
Voilà, c'est un petit peu David contre Goliath, mais nous ne lâcherons pas l'affaire tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause, et nous espérons que ce genre de cas porté un peu plus au devant de la scène permettra de se rendre compte de l'ampleur du phénomène et de prendre des mesures fortes pour empêcher que ces évictions de terre soient monnaie courante au niveau international et particulièrement dans les pays du Sud.
Donc là, vous défendez des cas des gens qui habitaient depuis très longtemps leur terre. Mais est-ce que vous avez, par exemple, aussi des cas de nomades ? Parce que là, c'est beaucoup plus difficile de montrer que ce sont leurs terres. Ils n'ont pas de papier pour dire, voilà, on a toujours vécu ici. Ils bougent tout le temps. Ils ne restent pas sur place.
Tout à fait. Donc ça, c'est un problème extrêmement important. Je parlais donc tout à l'heure d'un milliard de personnes qui souffrent de la faim. Là-dedans, il y a environ 10% de personnes qui sont effectivement des chasseurs, des cueilleurs, des pêcheurs, qui là dépendent aussi directement du fruit de leur activité. Et qui n'ont pas de titre de propriété, vous mentionnez, pour prouver qu'ils peuvent venir chasser à tel et tel endroit. C'est un problème qu'a aussi mis en avant le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation dans son rapport sur l'accès à la terre. Et là, ce que le rapporteur spécial défend, c'est le fait qu'il faut justement éviter de tomber dans un système de propriété exclusive et individuelle qui n'est pas en confort, enfin qui ne permettra pas de réaliser le droit à l'alimentation pour toutes les populations. Il y a certaines biens communs qui doivent faire l'objet d'une propriété collective. Et c'est notamment le cas pour ces chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, qui doivent pouvoir bénéficier d'un accès à des biens communs, à des terres communes, pour subvenir aussi à leurs besoins et aux besoins de la planète, puisque c'est eux qui doivent nourrir les populations locales.
Et est-ce que vous n'avez jamais eu des cas où vous vous trouvez confronté avec une ONG, un projet de développement qui prend des terres pour faire leur projet et qui prend ces terres exactement de ces gens nomades?
Alors, d'ONG, en tout cas, je n'en ai pas connaissance, même si ça pourrait arriver. Par contre, ça arrive régulièrement, en fait, qu'on soit confronté à des projets de développement, par exemple, de la Banque mondiale, qui peut, par exemple, faire des projets de construction. Il y a eu au Tchad et au Cameroun, ils ont supporté la construction d'un pipeline pour transporter le pétrole du Tchad vers la mer. Eh bien là, ça a demandé l'expulsion de nombreuses populations locales et ça pose de grandes questions sur le droit de ces populations locales. Ça peut être le cas aussi dans de nombreux barrages qui sont construits et qui demandent souvent d'expulser des populations et de leur priver de l'accès à l'eau, à la rivière. Donc ça arrive souvent que des projets soutenus par la Banque mondiale fassent l'objet de critiques au regard du droit à l'alimentation.
Et donc aussi de votre part?
De notre part, tout à fait, oui.
Ok. Donc on va finir peut-être avec les données pratiques. Ou est-ce que Joris, Louis, j'ai une vraie ouais.
Quelles sont les causes principales de cette tendance d'éviction de terre?
Alors,
la croissance de la population mondiale, ou c'est les biocombustibles, ou c'est la croissance, la richesse de certains pays comme la Chine ou le Moyen-Orient?
Voilà, c'est un problème qui a plusieurs causes. Vous avez cité l'accroissement de la population mondiale, donc effectivement il y a une plus grande pression sur les terres. Il y a des politiques de soutien aux agrocarburants que nous dénonçons aussi très clairement, donc qui mettent en concurrence en fait l'agriculture vivrière de subsistance avec maintenant des cultures qui sont destinées à faire rouler nos voitures. Et donc là, ça augmente également la pression sur les terres puisqu'il faut des quantités de terres énormes pour ces monocultures d'agrocarburants qui sont très destructrices de l'environnement également. Donc ça, c'est un phénomène que nous dénonçons très clairement et qui pourtant est favorisé à l'échelle de l'Union européenne. Alors, il y a également, depuis la crise alimentaire de 2008, le phénomène d'accaparement des terres s'est encore accru, puisque des intérêts privés viennent maintenant, et des États viennent investir dans la terre pour, si vous voulez, assurer une plus grande sécurité de production pour certains pays riches. Donc, par exemple, des États du Golfe très riches, les Émirats arabes, vont aller acheter des quantités énormes de terres en Afrique pour assurer une sécurité alimentaire de l'État des Émirats arabes, aux dépens de nouveau des populations locales. Donc ça, c'est également un phénomène important. De plus, la terre est devenue un petit peu un domaine où les investisseurs commencent à intervenir de manière de plus en plus massive, donc sur de la spéculation. La terre est devenue un bien spéculatif, et donc des intérêts des fonds de pension, des banques, achètent des quantités de terre en espérant que leur plus-value va augmenter grandement dans les années futures, du fait des autres facteurs que j'ai énoncés précédemment. Et voilà, ça renforce également ce phénomène de pression sur les terres. Vous aviez mentionné aussi le changement de régime alimentaire de certains pays comme la Chine ou l'Inde, le Brésil, qui commencent à consommer de plus en plus de viande, et la viande demande une production, pour nourrir le bétail, une plus grande production de céréales, donc qui doit venir aussi des fruits de l'agriculture et qui augmente également la pression sur les terres. Donc ce sont différents facteurs qui amènent à ce phénomène de pression sur la terre, aux dépens des populations vulnérables du Sud, comme toujours.
Ok, merci. Donc l'exposition commence mardi. C'est le vernissage.
Voilà, c'est le vernissage avec le soutien de la députée Thérèse Noy. Et donc avec le mouvement Ecta Parishad. Et ça durera jusqu'au 30 avril. Le vernissage du 17 avril se fera à partir de 12h30. Et si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite à venir consulter sur notre site www.fian.be. Vous trouverez là une affiche avec l'exposition et les modalités d'inscription pour participer.
Et c'est bilingue, je pense.
Oui, c'est bilingue, voilà. Vous m'excuserez pour mon intervention en français.
Non, ça va. Mais le site, je le sais bien, c'est tout en deux ou même trois langues, non?
Oui.
L'allemand?
Également l'allemand, voilà. Donc nous sommes vraiment une organisation belge dans les trois langues.
Et l'endroit, c'est le Parlement fédéral?
Parlement fédéral, c'est à la rue de Louvain, numéro 13, à 1000 Bruxelles.